Bonjour mes frères et mes sœurs. Respectez-vous vos priorités dans tout ce que vous faites, dans votre vie quotidienne, dans les décisions que vous prenez, dans vos pensées même, dans vos rapports avec les uns les autres et surtout dans vos rapports avec l'Éternel Dieu. Une chose est certaine, comme la Bible dit, si nous sommes au Christ, le Christ doit venir en premier lieu dans notre vie. Si nous sommes en Christ, nous sommes le temple. Notre corps est le temple de Dieu. Autrement dit, vraiment, dans tout ce que nous faisons, le Christ doit occuper la première place. En est-il ainsi en ce qui vous concerne? Réfléchissez, je vous prie. Par le passé, j'ai fait plusieurs sermons sur les priorités, mais chaque fois qu'on parle de ce sujet, on a toujours des idées nouvelles, des idées différentes. Car, voyez-vous, chaque chose que nous faisons, même chaque parole que nous prononçons, demande une priorité. Car si Dieu ne vient pas en premier lieu dans votre vie est déséquilibrée, déréglée même. Une chose est certaine, d'une façon générale, au sein de l'Église, nous avons une bonne attitude. Mais il y a aussi le fait que nous sommes dans un monde où Satan est encore roi. Satan nous tente, Satan nous pousse vers le mal, Satan nous fait penser que nos priorités à nous doivent primer les priorités que nous avons vis-à-vis du Christ. Autrement dit, Satan voudrait nous agiter pour que nos besoins physiques priment nos besoins spirituels. Une fois que vous comprenez cette vérité essentielle, tâchez de régler vos pensées. Si vos doutes sont toujours dirigés vers ce qui est spirituel, alors que vos besoins matériels priment vos désirs, dans ces cas-là, faites attention. Car si, je répète, vous succombez aux tentations physiques, si vous donnez priorité à vos désirs charnels, dans ces cas-là, vos priorités sont renversées. Commencez-vous à comprendre? Où en êtes-vous à cet égard? Et même, je dirais, êtes-vous capable de diriger vos pensées dans ce sens que lorsque vous parlez, vous vous exprimez par des paroles? Une chose est certaine, pour autant qu'une parole n'a pas encore été prononcée, vous en êtes maître. Mais une fois que vous l'avez prononcée, vous en êtes l'esclave. Donc là encore, c'est une question de priorité. Souvent, il vaut mieux se taire que parler. Même si le besoin vous pousse à dire quelque chose, vous avez avantage à vous taire, car ce genre de priorité est à votre avantage vraiment. Avez-vous jamais pris le temps pour vous demander pourquoi le Christ vous a appelé? Je sais que vous le savez. Mais vraiment, cette idée, cette préoccupation même, occupe-t-elle la première place dans votre vie? Avez-vous la conviction absolue que Dieu vous a vraiment appelé et que vous êtes membre de son Église? Si tel est le cas, d'abord, vous serez toujours vraiment fixé dans vos idées, vous ne pourrez jamais vous en détourner, et ensuite, lorsqu'il s'agit de priorités, vous saurez que les priorités, dans ce sens, ne seront pas difficiles à régler. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Paul a beaucoup souffert. Paul avait tout ce qu'il fallait au commencement avant d'être appelé, et voilà que le Christ l'appelle à des souffrances, à des tentations, si vous voulez, à une tâche qui était très difficile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Lorsque, sur la route de Damas, le Christ l'a frappé, Paul lui a posé deux questions. Il voulait savoir la raison de cet appel. Une fois qu'il a compris, une fois qu'il a su, il ne s'est jamais détourné de cet appel. C'est ça dont nous avons tous besoin. Une fois que nous sommes convaincus que le Christ nous a appelés, convaincus que Tout ce que nous faisons, c'est en l'honneur du Christ, en l'honneur de Dieu. Dès ce moment-là, il n'y a pas de doute. Donc, nous devons surveiller nos pensées, nos actes, nos paroles même. L'apôtre Paul, je répète, était prêt à sacrifier tout. Notez dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 23 à 23, Paul était appelé pour testifier, pour témoigner devant le roi Agrippa. Alors, il lui dit, laissez-moi citer verset 22, acte 26, il dit, « Grâce à Dieu, dit-il, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter, voyez-vous, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. » Autrement dit, Paul connaissait la Bible, les saintes écritures de l'Ancien Testament. Et Paul croyait à ces écritures. Et voilà pourquoi il a témoigné avec force. Et devant le roi Agrippa, donc, il fait ce genre de témoignage. Il dit savoir que le Christ, même l'Ancien Testament, parlait du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 23, que le Christ souffrirait, que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà la conviction de l'apôtre Paul. Est-ce la vôtre? Ça doit être le cas, car c'est toujours la même vérité. C'est toujours cette même mission. Ce qui l'écoutait à l'époque, le roi Agrippa et les autres, ont pris Paul en tant qu'insensé, en tant que fou. Ils ont dit, écoutez, ton grand savoir te fait déraisonner. Eh bien, mes frères et mes sœurs, cette vérité est toujours valable aujourd'hui. Si vous pensez ainsi, si vous raisonnez ainsi, les gens penseront que vous êtes fou. Car nous vivons dans un monde qui s'est détourné de Dieu. Un monde qui ne croit plus au commandement de Dieu. Un monde qui préfère des priorités matérielles aux priorités spirituelles. Si vous avez cette priorité spirituelle dans votre vie, vous aurez la paix d'esprit. Vous aurez la joie dans le cœur, quoi qu'il arrive. Vous aurez en même temps la conviction que ce que vous faites est agréable à Dieu. Et si tel est le cas, vous serez béni. Écoutez, si vous êtes béni, de quoi d'autre avez-vous besoin? Voilà des priorités, voyez-vous. Si nous avons les yeux sur le Christ, si nous avons les yeux sur notre mission, dans ce cas-là, cette mission doit venir en premier lieu, même en ce qui concerne nos amis physiques, nos parents. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer nos parents ou ignorer nos amis, pas du tout. Cela ne veut même pas dire que nous devons même nous détourner des plaisirs réels et bons en ce bas monde, pas du tout. Priorité signifie une chose avant l'autre. Alors, si vous respectez les priorités, vous aurez les plaisirs réels dans la vie. Mais ces plaisirs réels viendront une fois que vous aurez vous-même réarrangé votre façon d'apprécier et d'évaluer les choses. L'apôtre Paul a tout abandonné pour accomplir sa mission. Il a souffert, certes. Qu'en est-il du Christ? Le Christ, le Créateur suprême, est venu en ce bas monde et il a donné tout ce qu'il avait pour que nous puissions, nous autres, pécheurs, êtres physiques, mortels, pour que nous puissions un jour partager sa gloire. Alors, il est venu dans ce monde, il a été persécuté, il a été même attaqué par Satan. Il a résisté, car en toute chose, il a dit, « Dieu est mon Père, je fais la volonté de Dieu. » C'est cet enseignement qu'il a laissé aux apôtres, à nous tous aujourd'hui. Notez du reste sa toute dernière prière en présence des disciples, qui se trouve dans Jean chapitre 17. Je prends seulement quelques versets ici. Jean 17, verset 11. C'est le Christ qui parle. Il dit, je ne suis plus dans le monde parce qu'il allait être sacrifié. Il dit, et ils sont dans le monde, c'est-à-dire les apôtres, les disciples. Ces disciples étaient dans le monde alors que le Christ était en train de partir. Il dit, je vais à toi, dit-il, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Pensez à cela. Lorsque Dieu vous appelle, c'est Dieu qui vous appelle. Il vous donne au Christ. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Vous appartenez au Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Donc, c'est ce que le Christ dit ici. Il dit, ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Mais comment est-ce que nous, vous, moi, nous pouvons être un? Nous sommes un par l'Esprit Saint. Ensuite, il dit verset 14, Jean 17, « Je leur ai donné, dit-il, ta parole. » C'est quoi la parole? Mais c'est la Bible. Tout ce qu'on peut voir dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Cela signifie quoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde, ajoute le Christ, comme moi, je ne suis pas du monde. Comprenez bien, ne pas être du monde ne signifie pas ne pas être dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas en sortir. Nous devons être dans le monde sans être du monde. C'est ce que le Christ a fait et le chemin qu'il nous a montré. Voilà pourquoi il dit à son Père, il dit, « Je te demande de les protéger. » Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ce n'est pas possible. Autrement, nous mourions. Mais dit-il, de les préserver du mal. Voilà encore les priorités. En ce monde matérialiste, mes frères et mes sœurs, nous avons tous tendance, à des degrés différents, de nous pencher vers ce qui est égoïsme. Nous cherchons les choses pour nous-mêmes. Nous voulons avant tout nous plaire, même dans l'amour. Nous voulons être aimés plutôt que aimés. Nous voulons recevoir plutôt que donner. Nous voulons que les gens chérissent notre présence au lieu que nous-mêmes nous chérissions leur présence et que nous les encouragions. Le Christ, en toute chose, nous a montré la voie des priorités. Il a tracé devant nous le chemin à suivre et ce chemin n'est pas le chemin de l'égoïsme, pas du tout. Ce faisant, voyez-vous, si vous faites ce que le Christ dit, si vous donnez priorité à la vie spirituelle, au confort spirituel, vous aurez la joie dans le cœur. Quoi qu'il arrive, vous aurez la paix d'esprit, quoi qu'il arrive. Respectez-vous les priorités toujours. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez tendance, comme tout le monde en quelque sorte, à donner priorité à vos désirs égoïstes? Est-ce que vous préférez les choses agréables, physiques, matérielles, lorsqu'il faut choisir? Je répète, ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir avoir de belles choses. Ou bien de jouir de la vie de la bonne façon. Je parle de priorité. Priorité qui signifie qu'une chose doit venir avant l'autre. Laissez-moi vous donner quelques exemples. J'ai déjà parlé de ça, de ces exemples, mais maintenant, considérez-les à la lumière de ce que je viens vous dire. Je désire vous parler de l'exemple de deux sœurs qui étaient connues par le Christ, et le Christ aimait, deux sœurs qui avaient, pour ainsi dire, une attitude acceptable aux yeux de Dieu. Lisons dans Luc chapitre 10, par exemple. Luc 10, verset 38. Je prends des versets par-ci, par-ça, dans cette section. Le Christ était en chemin avec les disciples. Il entre dans un village. Une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison. Verset 38. Et Marthe avait une sœur. Elle s'appelait Marie. Je répète, ce sont deux sœurs qui étaient comme il faut. Et Marie s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, C'est très bien, mais d'une part, voyez-vous, il y a Marthe, qui est l'hôtesse, je pense, et voulait faire tout ce qu'elle devait faire pour honorer le Christ, alors que sa sœur Marie, au lieu d'aider sa sœur, elle écoute le Christ. Verset 40, Luc 10. Marthe occupée à divers soins domestiques. Voyez-vous, il n'y a rien de mal ou de mauvais à s'occuper des divers soins domestiques. Mais il y a un temps pour vous, il y a une sorte de priorité. Survint et dit au Christ, écoute-t-il, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule. Vous savez, ce n'est pas facile de s'occuper des soins domestiques lorsque vous avez un invité distingué comme le Christ. Donc, c'est normal que les deux sœurs travaillent ensemble pour vraiment honorer le Christ. Donc, en quelque sorte, Marthe avait raison. Mais seulement, Marthe ne connaissait pas ses priorités. Le Seigneur lui dit, Marthe, dit-il, tu t'inquiètes, toi, de peu de choses. Il dit, la seule chose qui est importante, qui est nécessaire, verset 42, c'est ce que Marie fait. Marie a fait le bon choix. Parce que Marie a choisi d'abord de connaître la voie du salut, la voie pour plaire à Dieu. C'est ici la base, l'essentiel de ce chapitre, voyez-vous. Je répète, ce n'est pas une question de ne pas honorer le Christ. Pas du tout. Ce n'est pas une question de ne pas honorer des invités que vous avez, pas du tout. Mais chaque chose a sa place. Lorsque vous comprenez l'exemple que le Christ nous donne ici, vous comprendrez que dans cet exemple, les deux sœurs qui étaient entre guillemets chrétiennes, les deux sœurs qui avaient une bonne attitude, n'avaient pas exactement les mêmes priorités. Marie avait la bonne priorité. Autrement dit, s'il faut choisir entre servir temporairement plutôt que écouter la parole qui vous conduit vers la vie éternelle, vous choisirez la parole qui vous conduit vers la vie éternelle et ensuite, vous aurez toujours le temps de faire le secondaire, c'est-à-dire honorer votre invité ou quoi que ce soit. Vous savez, dans ma vie privée, j'ai fait cette expérience à plusieurs reprises. Parfois, il faut que je fasse un sermon. Il faut que je prépare un sermon. Il faut que j'écrive un article. Il faut que je fasse des visites. Et voilà qu'au milieu de mon travail, quelque chose m'interrompt. Et je sais que le travail que je fais est très important, mais entre-temps, je sais aussi que l'interruption était importante parce que la personne qui s'adresse à moi a besoin de quelque chose. Alors, je demande à Dieu de me donner le sens de priorité. Et parfois, je dirais même souvent, j'abandonne le travail que je fais et je passe mon temps à cette personne qui a besoin de mes conseils ou de moi. Vous savez quoi? Chaque fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé le temps pour terminer le travail que j'avais. Le travail que j'avais était important, mais Dieu me donne quand même le sens nécessaire, la sagesse nécessaire pour pouvoir faire les deux travaux en même temps. Et c'est ça qui compte, voyez-vous. Le Christ n'a jamais été préoccupé pour abandonner la demande de quelqu'un. Oui, je répète, le Christ a toujours trouvé le temps pour aider quelqu'un qui était dans le besoin. Il a même passé son temps, comme vous savez, avec les publicains, avec des gens qui ne savaient pas, qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'importance, entre guillemets, à leur époque. Ne soyez jamais très préoccupés pour aider votre prochain. Ne soyez jamais très préoccupés pour ne pas avoir le temps d'étudier la Bible. Ne soyez jamais très occupés ou trop occupés, si vous voulez, pour ne pas trouver le temps pour prier. Il n'y a pas d'excuse. Quelles que soient vos excuses, elles ne sont pas acceptables et valables aux yeux de Dieu. Et il y a encore d'autres choses d'autres. Et ça, c'est très important. Respecter les priorités. Faire ce qui est important en premier lieu ne signifie pas abandonner le reste. Je répète, respecter les priorités. Faire ce qui est en premier lieu ne signifie pas abandonner ce qui vient en deuxième lieu. Et c'est là, souvent, où nous faisons des fautes. Nous négligeons ce qui est en deuxième lieu, et pourtant, c'est tout aussi important parfois. C'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens, pour la bonne forme, priaient Dieu, et ils connaissaient, eux, leur Bible, vous savez, les écrits de l'Ancien Testament. Mais eux, c'était des hypocrites. Regardez comment le Christ les traite. Il leur parle au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu. J'appelle ça le chapitre des hypocrites. Les pharisiens étaient des gens sensément connaissant la Bible, sensément obéissant aux ordres de Dieu, et pourtant c'était des hypocrites. Notez comment le Christ les traite, et aussi comment il dit et pourquoi ils sont des hypocrites. Matthieu 23, verset 23. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Ce mot « hypocrite », c'est bien à sa place, vous savez. Ça se répète à plusieurs reprises dans ce chapitre du reste. Il dit « Parce que vous payez la dîme, de la menthe, etc., et que vous laissez de côté ce qui est plus important. » Alors, voyez-vous, la dîme est importante. Il faut la payer. Mais seulement si vous sacrifiez l'important, la priorité, mettons, il dit ce qui est le plus important dans la loi, la justice, du point de vue divin, miséricorde, comme Dieu l'entend, la fidélité. Donc, justice, miséricorde, fidélité doivent venir en premier lieu, mais cela ne signifie pas qu'il faut abandonner le fait de payer la dîme. C'est ce que j'entends, voyez-vous. Ce n'est pas une question d'abandonner quelque chose, c'est une question de les respecter dans leur ordre respectif. C'est ce qu'il a dit le Christ aux pharisiens, qui les appelle du reste hypocrites. Une question de miséricorde, une question de justice, une question de fidélité aux yeux de Dieu doit certainement primer toute autre question. C'est pourquoi le Christ a dit qu'il faut absolument qu'on puisse respecter la priorité sans pour autant négliger ce qui est secondaire. Dans toute la Bible, si vous comprenez ce principe, vous verrez que ce principe apparaît à plusieurs reprises. Prenez les 10 commandements. Les 10 commandements, chacun d'eux est important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de doute. Et on ne peut pas dire quel est le plus grand, quel est le plus petit. Et pourtant, c'est ce qu'un homme a fait au Christ. Il dit, quel est le plus grand commandement? Mais regardez voir comment le Christ lui-même a désigné la priorité, même dans l'observance des 10 commandements. Je dis priorité dans l'observance. Mais chaque commandement, je répète, est tout aussi important. Parce qu'on avait demandé quel est le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, verset 34, 35. L'un des pharisiens demande au Christ quel est le plus grand commandement. Mais regardez ce qui est marqué pour éprouver le Christ. Cet homme-là ne cherchait pas la vérité. Il voulait trouver moyen de convaincre le Christ. Il dit, maître, dit-il, quel est le plus grand commandement? Verset 36. Le Christ lui répond, allez voir ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est quoi ça? Ça, c'est le premier commandement. Et ce premier commandement comprend les 3 autres. Autrement dit, les 4 premiers commandements d'entre les 10 vous disent comment respecter Dieu, comment aimer Dieu, comment adorer Dieu. Et le Christ précise, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Ah, voilà! Le plus grand commandement. Le Christ n'a pas dit cela. Lisez-le. Verset 39. Voyez-vous, ça suit. Ce n'est pas arrêter la phrase. Il dit, c'est le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Alors, si le second est semblable au premier, c'est que les deux sont tout aussi importants. Il dit, et le second qui lui est semblable, maintenant il prend les six autres des 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, il groupe les six autres commandements qui se rapportent au rapport entre nous-mêmes, entre êtres humains. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dit-il, le verset 40, là encore, tâchez de comprendre, le Christ n'a rien annulé. Le Christ n'a pas dit, tu observeras le premier groupe et tu observeras moins le deuxième groupe. Il n'a pas dit cela. Il dit, de ces deux commandements, dit-il, dépendent toute la loi et les prophètes. C'est intéressant. Donc, si vous prenez le temps d'étudier, vous comprendrez quel est le plus grand commandement. Ce qui se passe aujourd'hui, d'une façon générale, c'est que les prétendus chrétiens mélangent les priorités. Ils pensent honorer Dieu sans pour autant respecter les 10 commandements, sans pour autant respecter les uns les autres, et eux, ils établissent leurs propres priorités. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Laissez-moi citer 1er épître de Jean, chapitre 4, versets 17 à 21. Je parle de priorité. Ça, c'est très important. Je dis, parce que nous devons comprendre ce qu'est une priorité. Nous devons savoir qu'une priorité n'annule pas les autres responsabilités. Le Christ a dit, 1 Jean 4, versets 17 à 21, tel il est, tel nous sommes en ce bas monde. C'est en cela, dit-il, que l'amour est parfait en nous. L'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. De quoi parle-t-il? Il parle du retour du Christ. Il parle du jour du jugement où Dieu va vraiment faire justice et juger chacun de nous. Et ensuite, il dit la crainte, verset 18, toujours 1 Jean 4, la crainte n'est pas dans l'amour. Autrement dit, si vous aimez Dieu vraiment, si vous respectez Dieu, vous ne craignez rien. La même chose se passe en ce qui concerne votre vie physique. Si vous faites ce que Dieu vous dit, ne craignez rien. Ne craignez pas pour votre vie. Ne craignez pas les accidents. Ne craignez pas les attaques, car Dieu est votre protecteur. Il dit là, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Voilà l'amour parfait qui est ancré en Christ, bannit toute crainte. Voilà des paroles d'encouragement. Nous ne pensons pas des choses pareilles lorsque nous craignons quelque chose, lorsque nous sommes découragés. Pourquoi pas? Il dit, car la crainte, humainement parlant, la crainte suppose un châtiment. Oui, parce que vous faites quelque chose et vous savez qu'il y a un châtiment. Mais dit-il, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Autrement dit, si vous avez ce genre de crainte, vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est que le vrai amour. Continuons. Il dit, pour nous, dit-il, verset 19, nous aimons Christ parce que, dit-il, il nous a aimés le premier. Là encore, priorité. Vous ne pourriez jamais aimer le Christ si lui-même ne vous avait pas aimé. Vous ne pourriez jamais choisir le Christ si lui-même ne vous avait pas choisi. Ça, c'est encore une autre vérité de base. Et le Christ ajoute, si quelqu'un aime, verset 20, dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Encore priorité. Ensuite, il précise, car celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ensuite, il précise, voyez-vous, la Bible, mes frères et mes sœurs, répète souvent les mêmes choses. Mais c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Car nous avons besoin de répétition, notre esprit est un peu dur à entendre. Je parle d'esprit charnel. On a besoin d'entendre, comme un enfant. Combien de fois dites-vous à un enfant, fais ceci ou fais cela? la femme écoute, mais elle ne comprend pas, ou bien ne veut pas comprendre, ou bien ne veut pas écouter. Nous agissons de la même façon en ce qui concerne Dieu et ses commandements. Voilà pourquoi Dieu, souvent dans la Bible, répète les mêmes choses. Ces répétitions sont nécessaires en ce qui nous concerne. Et le Christ a dit, et nous avons ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous, voilà la base, voilà priorité. Eh bien, Dieu vient en premier lieu, sans pour autant négliger le fait que nous devons aussi aimer notre frère. Alors, je vous pose la question, où en êtes-vous à cet égard? Entendez-vous ces vérités? Est-ce que vous avez ces mêmes sentiments en ce qui concerne les autres en ce bas monde? Vos amis, et même vos ennemis, les membres de votre famille, ceux avec qui vous travaillez. Il y a une chose qui est difficile à comprendre en ce qui concerne les chrétiens. Le Christ a dit que nous devons l'aimer avant toute autre personne. Ça, nous savons. Mais alors, les gens diront, mais le Christ ne veut pas que nous aimions les nôtres, nos parents, nos enfants, mais si. Parce que voyez-vous, les gens comprennent mal. Regardez voir, Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 10, 37. Matthieu 10, 37 à 39. Le Christ a dit, c'est lui qui parle, voyez-vous, le poids de ses paroles, de celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Tâchez de comprendre. Il n'a pas dit, il ne faut pas que nous aimions les nôtres. Il est plus que moi. Priorité. Je répète, comme j'ai dit au commencement de ce sermon, le Christ doit venir de premier. Donc, si vous aimez votre sœur, votre fille, vos enfants, votre mère, tout ça, vous n'êtes pas digne de moi. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix, verset 38, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Là encore, c'est une question de priorité. Ou encore, verset 39, celui qui conservera sa vie. Autrement dit, si vous faites tout pour conserver votre vie, au lieu de faire ce que Dieu vous dit de faire, au risque même de la perdre, il dit, la perdra. Eh oui, celui qui conservera sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause du Christ, à cause de la vérité, à cause de ce que je vous dis, la retrouvera. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce sujet est très important. Car nous ne comprenons pas, nous pensons comprendre, nous pensons agir en conséquence, nous pensons faire ce que le Christ dit, mais ce n'est pas vrai. Je sais, dans ma vie privée, je vois mes défauts. Je suis sûr que vous avez les mêmes difficultés. Vous avez des amis que vous aimez, c'est normal. Vos enfants, vos amis, vos parents. Mais il faut aimer, ça c'est juste. Mais souvent, nous les mettons avant le Christ. S'il y a une responsabilité qui nous fait perdre quelque chose sur le plan physique, eh bien, nous commençons à douter. Je sais par exemple que souvent, j'ai rencontré des gens qui avaient des offres fantastiques au point de vue du travail. Mais il fallait qu'ils respectent le sabbat, mettons, et ils ne peuvent pas garder ce nouveau travail, s'ils respectaient le sabbat, alors ce choix pour eux c'était difficile. Certains d'entre eux ont abandonné l'idée d'avoir un nouveau poste, d'autres ont succombé. D'autres ont dit « Dieu comprendra ». Ça c'est priorité personnelle. Le fait est que si en toute chose, comme le Christ a dit, vous mettez le Christ le premier, si vous respectez les commandements de Dieu, au risque même de perdre quelque chose, vous retrouverez, y compris votre vie, comme le Christ a dit dans ce chapitre-là. Considérez, je répète, vos rapports au sein de la famille. Vous avez une offre, vous avez un époux, une épouse, vous avez des enfants, et souvent vous avez des priorités qui vous font parfois chanceler, qui vous font parfois vous demander est-ce que ce que vous faites est correct ou non. Je viens de recevoir une lettre de la part d'une personne. Et je comprends, vous savez, ce n'est pas à moi de juger. La personne dit, écoutez, je vis dans un pays où il n'y a pas de travail. On vient de m'offrir un travail, mais on me demande de travailler le jour du sabbat. Qu'est-ce que je fais? Il a des enfants. Oui, ce n'est pas à moi de juger. C'est le Christ. Mais chacun de nous doit prendre une décision conformément à ses convictions. Et Dieu seul est juge. Ces décisions, je répète, ne sont pas toujours faciles. Nous devons passer du temps à genoux. Si j'étais à la place de cet homme-là, je lui ai dit, je me mettrai à genoux, je jeûnerai même s'il le faut, je demanderai à Dieu, de tout mon cœur, écoute Dieu, tu aimes mes enfants, tu aimes ma femme, tu sais que je n'ai pas de travail dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si vous avez cette honnêteté, cette assurance, cette force, et si vous voulez mettre Dieu le premier dans votre vie, vous aurez la réponse. Donc vous ne chercherez pas votre volonté, mais la volonté de Dieu. Rappelez-vous que les expériences que nous faisons à ce bon monde sont à peu près les mêmes. Que vous soyez femme ou homme, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, nous avons les mêmes tentations, les mêmes difficultés, les mêmes plaisirs, si vous voulez. Donc, nos besoins sont identiques en quelque sorte. Nous avons les mêmes envies, humainement parlant, les mêmes désirs et aussi les mêmes sentiments en ce qui concerne notre décision de plaire à Dieu, mais toujours à condition que nous puissions mettre nos besoins personnels avant notre amour envers Dieu, malheureusement. Le Christ nous a enseigné de toujours mettre non seulement la vérité avant toute autre connaissance, mais aussi il nous a enseigné comment observer les commandements de Dieu. Voyez-vous l'exemple que je viens de vous donner. Comment pourriez-vous observer le jour du sabbat sans déplaire à Dieu, sans transgresser ses lois et sans pour autant abandonner les vôtres? Voyez-vous, là, je ne connais pas la réponse. Dieu la connaît. Dieu peut faire toutes choses. Dieu peut susciter de l'or, mettons, de la poussière de cette terre. Si vous êtes honnête devant Dieu, si vous avez confiance en Dieu, si vous lui demandez ouvertement, honnêtement, son intervention, Dieu vous répondra. Dans l'évangile selon Marc, nous avons un exemple intéressant en ce qui concerne les commandements de Dieu. Un jeune homme, s'adresse vers le Christ. Marc, chapitre 10, verset 17. Il dit, il se met à genoux devant Dieu. Voyez-vous, ça prouve déjà que cet homme respectait le Christ. Il comprenait la grandeur du Christ. Il respecte. Il se met à genoux et dit, maître, dit-il, il dit même, bon, maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, nous savons tous que nous sommes ici pour un jour hériter la vie éternelle. Ça, c'est le but de la vie. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous souffrons, si vous voulez. C'est pourquoi nous obéissons à Dieu. Nous sommes ici en sorte que nous nous préparons pour la vie éternelle. Cette vie physique est un champ de préparation. Donc, ce jeune homme-là s'adresse au Christ. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire? Le Christ lui a dit, verset 18, Marc 10, il dit, eh bien, dit-il, si tu vraiment veux faire ce qui est juste, je paraphrase, observe les commandements. Alors, ensuite, après avoir dit ceci, le Christ énumère une partie de la deuxième partie des 10 commandements, autrement dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'il voyait que ce jeune homme respectait déjà Dieu. Voilà pourquoi il cite ici, dans la partie qu'il cite des 10 commandements, il dit, tu connais les commandements, dit-il, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Voyez où ça, c'est la deuxième partie des 10. Tu ne déroberas point, tu n'auras point de faux témoignage et tu ne feras tort à personne. C'est beaucoup demandé, oui et non. Si vous faites ceci, si vous faites cela, dans tout ce que vous faites, le fait est que je ne dis pas que vous aurez toujours une vie facile, non. Mais vous aurez toujours une vie qui sera agréable à Dieu et en fin de compte, vous serez béni. C'est ça que nous devons comprendre, que Dieu est juste, Dieu miséricordieux et que Dieu verra à ce que nous soyons récompensés. Mais dans cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, contrairement à ce que font la plupart des gens, il dit, maître, dit-il, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh, incroyable. Il a observé ces choses dès sa jeunesse. Il devait avoir des parents qui lui ont enseigné ces vérités. C'est bien. Donc, est-ce qu'il a terminé donc ses responsabilités? Le Christ connaît nos cœurs. Il connaît les circonstances. Mais le Christ, donc, si vous lisez le reste, pose une question. Il dit, si c'est le cas, dit-il, vends tout ce que tu as et suis-moi. Verset 21, Marc 10. Regardez voir cette phrase. Ça commence, Jésus l'aima. Et c'est normal, vous voyez un homme qui dit, j'ai observé toutes ces choses. Et c'est normal que le Christ l'aime, il dit, Jésus l'aima. Et pour le mettre à l'épreuve, je dis bien l'épreuve parce que ce n'est pas nécessairement le cas, il dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, autrement dit, fais quelque chose de bien, et tu auras un trésor dans le ciel. Regardez voir ça. Quelque chose de tangible sur cette terre éphémère à comparer au trésor dans le ciel qui est éternel. Il n'y a pas de comparaison. Cet homme aurait dû avoir la compréhension. Hélas, ce n'était pas le cas. Lorsque le Christ a dit donc, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi, vous savez quoi? C'était trop demandé. Cet homme était affligé, verset 22. Il était affligé parce qu'il avait été très riche. Cette recommandation du Christ en remplit son cœur de tristesse parce qu'il avait de grands biens. C'est ça que j'entends par priorité. Qu'avez-vous en ce bas monde qui soit plus important que l'appel que le Christ vous fait? Qu'avez-vous en ce bas monde? Qu'est-ce que vous possédez? Y compris des amis qui soient plus importants que vos rapports avec le Christ. Ici, vous avez donc cet exemple qui est fantastique. Le Christ l'aime, un homme qui observe les lois de Dieu, un homme qui veut être dans la vie éternelle. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'agir, il se dégonfle, si vous permettez que je dise ainsi. Alors, il veut suivre son petit chemin, et veut garder ses richesses terrestres, et il manque en quelque sorte l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque ceci est arrivé, les disciples eux-mêmes étaient étonnés parce qu'ils voient le Christ, ils voient cet homme, ils voient ce qui s'est passé. Alors si cet homme, qui avait quand même une bonne attitude, qui observait les commandements, si cet homme donc ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, qui est-ce qui peut entrer? C'est ce qu'ils ont dit au Christ. Ils ont dit, mais écoutez, comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume? Le Christ a dit, il sera difficile, dit-il, à ceux, verset 23, qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes attachés à ces choses. Ces richesses peuvent être n'importe quoi. Si vous êtes attaché à quelque chose, vous aurez des difficultés à entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes trop gras, trop gros si vous voulez, pour entrer dans le trou d'une aiguille. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, lorsque les disciples étaient étonnés, verset 24, il dit, « Mes enfants, dit-il, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile, verset 25, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Réfléchissez à cela. Peut-être vous n'avez pas grand-chose, peut-être vous n'avez pas beaucoup de richesses, mais quelque chose que vous avez et auquel vous tenez, alors ça devient le même, je dirais, obstacle que ce que vous voyez ici avec ce jeune homme. Les disciples étaient étonnés de voir cette condition. Alors, dans ce cas-là, à leurs yeux, le salut devient quelque chose d'impossible. Ils ont dit, mais si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Quelle a été la réponse du Christ? Et c'est ça la priorité. Verset 27, Marc 10, Jésus dit, cela est impossible aux hommes. Non, vous ne pouvez pas faire ce genre de sacrifice, mais tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi je dis, laissez Dieu faire les choses. Laissez Dieu vous convaincre et vous assurer, et il le fait dans la Bible, que ce que vous avez perdu, ce que vous perdez, vous allez le récupérer. Si vous êtes déterminé, mes frères et mes sœurs, à tenir le coup, si vous êtes déterminé à rester fidèle au Christ, vous serez toujours gagnant. Ce ne sera pas facile, je répète, mais vous serez toujours gagnant. Si vous avez la priorité dans tout ce que vous faites, donc demandez à Dieu chaque jour de vous donner ce sens de priorité. Ne cherchez pas des excuses. Ne dites pas « je suis trop âgé, trop jeune » ou bien « trop seul », je ne sais pas. Ne cherchez pas des excuses. Prenez par exemple l'exemple d'Abraham, Genèse chapitre 12. Abraham était âgé lorsque Dieu lui demande quelque chose, alors que cet homme avait déjà servi Dieu. Tout d'un coup, Dieu demande une chose qui change totalement sa vie. Il dit à Abraham, dit-il, verset 4, verset 1, Genèse 12, il dit, « Lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père. » Autrement dit, voyez-vous, tout ce qu'il avait, tout. Il dit, « Laisse tout ça derrière toi et va dans le pays que je te montrerai. » Jusqu'où va votre obéissance à Dieu? Abraham avait tout, il était âgé aussi, donc il avait été présent aux yeux de Dieu. Pourquoi lui exiger une telle chose? Dieu est-il injuste? Pas du tout. Dieu est-il méchant? Pas du tout. Dieu ne voulait pas qu'Abraham ait une vie facile à son âge? Si. Mais ce qu'Abraham a eu, c'était beaucoup plus agréable que ce qu'il aurait pu avoir s'il restait dans son pays. Et Dieu lui dit, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » Quelle récompense! Alors, qu'est-ce qu'il peut perdre, Abraham, à comparer à cette promesse? Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Tu seras une source de bénédiction. Voyez-vous, cette promesse divine dépasse toute chose, surpasse toute autre promesse. Il dit même, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez-vous, Dieu est très généreux. Si Dieu vous demande quelque chose, vous pouvez être sûr que vous recevrez de retour de multiples. Autrement dit, vous aurez beaucoup plus que ce qu'il vous demande. Quelle a été la réaction d'Abraham? À l'époque, il s'appelait Abraham. Quelle est cette attitude? C'est ça, il a su ce que c'est que la priorité. Verset 4, Genèse 12. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et son neveu, Lot, partit avec lui. Et vous, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si nous avons ce genre de confiance en Dieu, Abraham, non pas seulement a été béni, il est devenu le père des croyants, et tout ce qu'il avait perdu, mettons, il a tout regagné, et même plusieurs fois, en multiples. Parfois, nous réfléchissons avant de prendre des décisions, mais nos réflexions ne sont pas sérieuses. Autrement dit, lorsque vous commencez à réfléchir, à comparer ce que vous gagnez, ce que vous perdez, dans ce genre de raisonnement, tâchez de raisonner comme le Christ raisonne. Qu'est-ce que le Christ avait à gagner en venant sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a gagné, pour ainsi dire, en ce qui concerne lui-même? Rien. Il a tout perdu en venant sur cette terre, mais ce qu'il a gagné, c'est votre amour, mon amour. Ce qu'il a gagné, voyez-vous, en donnant son amour pour que nous puissions être dans son royaume. Ce n'est pas un désir égoïste, pas du tout. C'est un désir, un dévouement total. C'est ce sentiment d'amour, voyez-vous, c'est ce qu'il a gagné. Et ce sentiment d'amour prime tout autre sentiment. La Bible nous montre le chemin à suivre dans toutes choses. La Bible nous montre, par exemple dans l'exemple d'Abraham, comment prendre la bonne décision. Malgré tout, Abraham ne savait pas où aller. Il ne connaissait même pas le pays. Mais il a cru à la parole divine. Et il a été béni. Parfois, nous sommes tous très préoccupés pour analyser ainsi. Nos sentiments personnels sont trop tournés vers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous convaincre en disant « Écoute, Dieu le sait, laissez Dieu faire les choses. » Si dans toutes ces décisions d'importance de ce genre, si vous dites « Dieu le sait, si Dieu me demande des choses, je le ferai », dans ce cas-là, vous serez béni. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple, tout à fait, je dirais, banal dans ce sens que, voyez-vous, ça prouve notre futilité. C'est l'exemple de deux frères. C'est Jacob et Ésaü. Alors, c'est la famille d'Abraham, en quelque sorte. Et voilà que Ésaü est devenu un chasseur. Genèse chapitre 25, Isaac aimait Ésaü. Alors, autrement dit, Jacob était un homme en quelque sorte tranquille. Ésaü était un homme qui était chasseur, gibier, autrement dit, je ne sais pas, c'est une question de préférence. Rebecca, la femme, donnait préférence à Jacob. Alors, maintenant commençons à voir. Qu'est-ce qui se passe? Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé. Alors il voit le bol de soupe, reprenant depuis verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, Rebecca aimait Jacob. Verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé, fatigué, et il dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de cette soupe. C'est normal, il est fatigué, il veut manger. » Il dit, « Quand je suis fatigué, Jacob est un malin. Il dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Voyez-vous, cette demande n'était pas juste, n'était pas bonne. N'était pas chrétien, pour ainsi dire. Mais nous sommes tous charnels. Donc, Jacob veut avoir quelque chose en retour et dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est tellement supérieur à ce que nous appelons un bol de soupe. C'était ridicule. Alors, comment est-ce que Jacob et Ésaü se sont comportés les uns avec les autres? Jacob a dit, jure-moi, dit-il d'abord, que tu me donneras donc ton droit d'aînesse. Ésaü vendit son droit d'aînesse. Alors, oui, c'est une faute grave qu'il a faite. Inexcusable. Mais quel était son raisonnement? Il dit, je vais mourir, alors à quoi bon? Il n'a pas compris que la mort qu'il éprouverait à ce moment-là ne serait rien à la promesse qu'il avait pour l'avenir. Qu'est-ce qui se passe, en fin de compte? Ésaü méprisa donc son droit d'aînesse. Est-ce les grâces qui vous concernent? Vous abandonnez parfois des choses importantes dans votre vie parce que vous avez un besoin urgent. C'est possible. Je rencontre des gens dans ce cas-là. Et après, ils regrettent. Parfois, le regret que vous avez, ce n'est pas trop difficile à effacer. Parfois, comme ici, voyez-vous, c'est tragique, c'est permanent en ce bon monde. Ici, ce qui s'est passé, Ésaü a gagné, Jacob a perdu. Mais je répète, c'est souvent ainsi que nous raisonnons. Dieu nous a appelés dans son Église. Dieu nous a appelés à cette vérité. Dieu a ouvert nos yeux. Dieu nous a donné, à nous qui sommes baptisés, son Esprit. Son Esprit en nous, c'est la richesse incomparable que nous puissions posséder. Matthieu 13, verset 44. Le Christ a dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. » Voilà l'importance. Dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il vend tout, pas une partie, tout ce qu'il a et achète ce champ. Voilà le prix, mes frères et mes sœurs. Voilà le prix de la vérité, voyez-vous. Il ajoute verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » C'est ce que nous sommes, nous cherchons les belles perles du royaume de Dieu. Et il trouve, une fois encore, il vend tout ce qu'il a pour l'acheter. Réfléchissez à tout ça, je vous prie. Où en êtes-vous en ce qui concerne votre place dans l'Église? Où en êtes-vous en ce qui concerne votre place dans la société? Que quelqu'un que vous connaissez, qu'il soit membre de l'Église ou non, est-ce que vous faites ce que vous pouvez faire pour l'aider, pour lui rendre la vie un peu plus facile? Est-ce que vous pouvez dire que vous faites tout ce que vous pouvez faire afin que cet homme puisse vraiment connaître le chemin de la vie éternelle? Autrement dit, êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour que quelqu'un d'autre puisse arriver au but? Le Christ parle aussi des sacrifices. Dans Luc, chapitre 14, le Christ dit une chose extrêmement importante. Il parle justement du sacrifice. Il dit, si quelqu'un, verset 26, vient à moi, s'il ne hait pas, le mot « hait » c'est mal traduit, autrement dit, c'est comme dans Matthieu, s'il met la préférence à quelque chose d'autre, autrement dit, nous ne devons jamais haïr quelqu'un, mais en quelque sorte, si vous mettez donc votre père, votre mère avant le Christ, ou vos frères, vos amis, vous ne pouvez pas être digne du Christ. Et ensuite, le Christ ajoute comme dans Matthieu 10, c'est le même principe, il dit, quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et ensuite, le Christ nous révèle une vérité absolue. Et c'est cette vérité que je voudrais que vous compreniez. Dans tout ce que vous faites, mes frères et mes sœurs, tâchez de calculer la dépense. Il dit, lequel de vous, verset 28, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. On peut commencer un projet, mais peut-on le terminer? De peur, dit-il, qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Voyez-vous, ceci est vrai pour nous tous dans notre vie. Nous sommes ici, en quelque sorte, en train d'apprendre à vivre, en train d'apprendre comment obéir au Christ, comment respecter ses commandements, comment respecter toutes les priorités dans notre vie quotidienne. J'ai encore le temps, j'espère, de citer juste brièvement l'exemple du bon samaritain. C'est dans Luc chapitre 10. Laissez-moi paraphraser. Il y a un blessés. Et les gens passent, il y a un sacrificateur qui passe outre, il y a un prêtre qui passe outre, et chacun d'eux a ses propres priorités. Mais voilà qu'un Samaritain, et les Samaritains à l'époque n'étaient pas aimés par les Juifs, par les Israélites, le Samaritain ne passe pas outre. Et il n'a pas fait comme le sacrificateur a fait, comme le prêtre a fait. Le Samaritain, je répète, c'est Luc chapitre 10, verset 33, etc., s'arrête, prend soin du blessé, va même dans une auberge et demande à l'hôtelier, écoutez-il, prenez soin de cet homme, et s'il y a quelque chose d'autre à payer, je payerai. Voyez-vous la différence? Voilà l'attitude de quelqu'un qui connaît ses responsabilités, qui connaît ses priorités. Alors, si vous regardez dans cet exemple, l'exemple du sacrificateur ou celui du prêtre et celui du samaritain qui a fait la volonté du Père. C'est du reste, c'est ce que le Christ a demandé. Écoutez, prenez encore une fois les paroles de l'apôtre Paul. Il nous dit dans Colossiens chapitre 3, il dit, écoutez, dit-il, vous êtes au Christ. Si donc vous êtes, dit-il, avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à droite de son Père. Affectionnez-vous, Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celui qui sont sur la terre. Là encore, ce n'est pas une question d'abandonner tout, c'est une question de priorité, de respecter l'ordre des choses. Il dit, vous êtes mort, physiquement parlant, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. La mort, en ce bas monde, n'est rien, parce que si nous sommes dans la bonne voie, nous entrons dans la vie éternelle, et où il n'y a plus de mort, c'est fini. Il dit, le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 4, Colossiens 3. Et il répète, si donc, dit-il, vous faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité et toutes sortes de péchés, il dit, vous arriverez, je paraphrase, à la vie éternelle. Prenez tout le chapitre, Colossiens 3. Étudiez ce chapitre. Vous verrez ce que c'est que vraiment l'ordre des priorités entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Vous saurez quel chemin prendre à chaque bout de chemin. Vous saurez comment agir, comment répondre, comment vraiment aider votre prochain, comme vous-même, comment l'aimer. Mais en plus de cela, vous saurez comment agir pour qu'en toute chose, vos décisions, les décisions que vous prenez, plaisent à Dieu et qu'elles jouissent de la priorité d'après lui et non pas nécessairement d'après vous. Respectez, mes frères et mes sœurs, vos priorités selon le Christ.